Salut, c'est Steven Jambot de l'Atelier des médias. Des assises internationales du journalisme se tenaient à Tunis du 17 au 19 mars. J'ai réalisé sur place plusieurs entretiens avec des professionnels de l'information. La semaine dernière, vous avez pu entendre dans cette émission Cyrine Attia, rédactrice en chef Tunisie de Brut, expliquer le positionnement éditorial de ce média vidéo né en France dans un pays comme la Tunisie.
Je pense que ce qui fait la singularité de Brut, c'est un peu ce qui fait aussi la singularité de Brut en France. C'est aujourd'hui que ça permet de s'intéresser à des personnes auxquelles d'autres médias ne sont jamais intéressés peut-être. En tout cas, pas de cette manière-là.
Vous avez aussi entendu Caroline Hayek, grand reporter au quotidien libanais L'Orient le Jour, nous raconter ce qu'a apporté à sa rédaction le prix Albert Londres qu'elle a reçu pour ses reportages après l'énorme explosion survenue dans le port de Beyrouth en août 2020.
Donc pour nous, avoir une telle reconnaissance, ça veut dire qu'on est vraiment sur la bonne voie, qu'on est en train de faire du bon travail, je l'espère. Et ça nous a confortés dans l'idée de rester. Parce qu'à un moment, on avait des doutes. Beaucoup ont une double nationalité, soit française, soit européenne, et on songeait à partir parce que travailler et vivre dans ce pays, c'est épuisant.
Cette semaine, je vous propose que l'on se tourne vers le Niger, parce qu'à Tunis, une table ronde a été consacrée à l'état du journalisme et des médias dans ce pays d'Afrique subsaharienne.
Ce problème de liberté de presse, si on crée un média, et ça revient un peu à ce que nos collègues du Liban ont expliqué ici, concernant la viabilité des médias, quand un média n'est pas viable, quand on crée juste pour créer, on n'arrive pas à mettre ces acteurs dans des conditions de travail, là la tentation est facile.
Parmi les participants se trouvait le journaliste Alassane Abdou Mahaman. Il a été membre du conseil de presse au Niger, il a aussi été dans le premier bureau de l'ONIMED, l'Observatoire nigérien indépendant des médias pour l'éthique et la déontologie, organe de régulation et d'autorégulation. C'est dire si c'est un journaliste passionné et déterminé. Alassane Abdou Mahaman est maintenant rédacteur en chef de Studio Kalangou. Studio Kalangou, c'est un projet lancé en janvier 2016 par la fondation Hirondelle et des partenaires locaux soutenu financièrement par la coopération suisse. Studio Kalangou propose chaque jour et en 5 langues des journaux d'information, des débats et des magazines radiophoniques. Ces programmes sont ensuite diffusés par plus d'une cinquantaine de radios privées et communautaires couvrant sur le papier plus des 2/3 de la population du Niger. J'ai voulu savoir comment se porte Studio Kalangou et quels sont les défis de cette rédaction atypique dans la production et la diffusion de l'information au Niger. Bonjour Alassane Abdou Mahaman.
Bonjour.
Comment allez-vous ?
Je me porte bien.
Vous êtes ici aux Assises internationales du journalisme à Tunis, où il y a plein de rencontres, et il y a beaucoup de journalistes de la sous-région. Est-ce que vous en avez rencontré avec lequel vous avez pu échanger ?
J'en ai rencontré beaucoup, et j'ai échangé avec beaucoup de gens, parce que tout simplement, d'abord c'est une fierté pour moi d'être là, grâce à la Fondation Hirondelle, et pour parler de notre expérience. Nous avons beaucoup d'expérience parce que pour moi, je ne cesse de le dire, la Fondation Hirondelle n'est pas uniquement un média, c'est pratiquement une école. Parce que nous sommes en train de changer beaucoup de choses dans la donne, nous sommes en train de changer beaucoup de choses dans la manière de faire. Et je pense qu'aujourd'hui, si vous voulez communiquer en Afrique avec les Africains et avoir plus de gens qui vont t'écouter, utilisez les langues locales. Mais quand on utilise les langues locales également, il faut faire tout en possible pour bien traduire et bien donner l'information qu'il faut.
Le choix des mots est fondamental.
Le choix des mots est très fondamental parce que tout simplement, qu'est-ce que nous constatons aujourd'hui ? Avec l'avènement de cette histoire d'Internet, les gens veulent comprendre, les gens cherchent à faire, mais ils ne savent pas comment utiliser cet outil-là. Pour te dire que la radio reste et demeure toujours le meilleur moyen de communication en Afrique et le Niger ne fait pas d'exception. Et nous, au niveau de la Fondation Hirondelle, dans tous les pays où nous avons des projets, notamment au Niger avec Kalangou, Tamani au Mali, Yafa au Burkina Faso, nous avons mis l'accent sur ces langues-là. Et nous sommes forcés à renforcer les capacités de nos collègues qui travaillent dans ces médias-là, qu'ils soient correspondants ou au niveau central. Parce que, je te donne juste l'exemple du Niger, nous sommes à peu près une cinquantaine de personnes, une cinquantaine de journalistes. Et au niveau central et à l'intérieur du pays, 50 personnes également, qui nous cherchent l'information, la vraie, auprès de la population locale pour pouvoir donner ces informations de tout le Niger, parce qu'on couvre pratiquement tout le Niger, et permettre à tout un chacun de comprendre les informations de l'Est, du sud au nord, de l'ouest également.
Studio Kalangou existe depuis 2015, c'est donc basé à Niamey, au Niger, et Studio Kalangou existe en 5 langues. Parlez-moi de ces 5 langues et pourquoi celles-ci ?
À l'arrivée de la Fondation Hirondel au Niger d'abord, c'était des rencontres avec l'ensemble des organisations socio-professionnelles des médias pour parler un peu de ce qu'ils comptent faire dans le pays. Et je te dis, aujourd'hui, elle fait la fierté de beaucoup de Nigériens parce qu'avec leur projet, parce qu'il ne faut pas oublier, Studio Kalangou n'est qu'un projet de la Fondation Hirondel. À travers ce projet-là, nous nous sommes dit, pour toucher les Nigériens, comme je l'ai dit tout de suite, il faut passer en langue locale. Et nous avons choisi 5 langues. C'est le Hausa, c'est le Zarma, c'est le Tamashek, c'est le Fulfulde également, plus le français. Pourquoi le choix de ces langues ? Au Niger, il est rare de trouver un Nigérien qui ne parle pas les 2 langues, Hausa, Zarma. Mais il est aussi facile de trouver des Nigériens qui ne parlent pas ces 2 langues. Et nous avons regardé un peu les différents coins du Niger. Qu'est-ce qui peut passer ? Au nord, quand je prends la région de Tawa, tu peux parler Hausa et Tamashek. Agadez, Hausa et Tamashek. Tillabéri, tu peux parler Zarma, Hausa, français. Dosso, Hausa, Zarma, français également. Français partout, si je peux le dire. Zender, c'est Hausa et Kanori, si je peux le dire. Difa, c'est Hausa également. Maradi, c'est Hausa. Mais aujourd'hui, il y a une forme de mutualisation. Les Nigériens sont partout. Les gens de l'Est sont à l'Ouest, les gens de l'Ouest sont à l'Est, les gens du Nord sont au Sud. Donc, ces langues, vraiment, ça permet de toucher les gens à leur profond. Parce que, comprenez-moi un peu, quelqu'un qui va vouloir te parler d'une maladie qui te dérange, qui veut vouloir te parler d'une situation qui peut, dans laquelle tu peux te sauver, et qui va te dire ça en français ou dans une autre langue. Ça peut passer inaperçu. Mais dès que tu parles de ça dans sa propre langue, il va se dire, oh, mais voilà ce qui me guette. Je dois faire très attention. Et même dans ça, nous nous sommes dit, quel genre de langue, quel type de langue il faut utiliser. Parce qu'il y a les académiciens qui sont là, qui ont créé pas mal de choses, qui ne peuvent pas passer. Mais le bon journaliste, c'est quelqu'un qui communique pour les plus petits comme aux plus grands. Donc, nous avons renforcé plus les capacités de nos traducteurs. On a une très grande capacité de traduire les choses parce qu'on a une équipe, une très grande équipe de traducteurs et dans toutes les langues qui sont là. Par exemple, je vous donne l'exemple de Tamashek. Il y a des Tamashek de la région de Tillabéri, il y a des Tamashek à Tawa, il y a des Tamashek à Agadez. Les dialectes changent. Donc, on a tous ces gens-là, tout ce beau monde-là dans l'équipe. De telle sorte que si tu n'as pas le mot chez X, tu as le mot chez Y. Et nous cherchons toujours le mot utilisé 2 fois dans les grandes villes pour permettre aux jeunes de comprendre un peu que ça peut se comprendre ici ou là-bas.
Et dans le traitement éditorial, est-ce que vous aurez des sujets différents en fonction des langues ou pas ?
Non, non. Et c'est ça qui fait la différence des Kalangou avec les autres médias. Si on a 5 éléments en français, les mêmes éléments, c'est ça que nous allons traiter dans les différentes langues. Ça, c'est un. Et deuxième chose, si l'élément est en zarma, on traduit dans toutes les autres langues. Si c'est en français, dans toutes les autres langues. Si c'est en hausa, c'est la même chose qu'on traduit aussi dans toutes les langues. Pourquoi nous faisons ça ? Parce que tout simplement, il peut y avoir des variations des choses. Moi, je peux parler en français, mais la personne qui va parler en hausa ou en zarma, il va peut-être modifier ce que j'allais dire ou augmenter ou diminuer dans les affirmations. Il vaut mieux prendre une seule personne et traduire dans les autres langues.
Alassane Abdou Mahaman, vous êtes rédacteur en chef d'une équipe qui donc est de plein de cultures, de sensibilités, de langues différentes. Comment réussir à les faire parler d'une même voix ?
Vous savez, c'est une question d'organisation. D'abord, en tant que responsable, la première des choses à faire, c'est de chercher la synergie, la symbiose, la joie et aussi surtout l'unité entre les équipes. Si tu arrives à instaurer ça dans une équipe, tu as tout le monde autour de toi. La responsabilisation également. Et ça veut dire qu'il faut avoir une rédaction très bien organisée. Donc, à chaque niveau, au niveau de chaque langue, il y a des responsables qui sont là, qui me rendent directement compte de ce qui se passe. Voilà les difficultés. Il y a un carnaval de rapports qu'il faut faire chaque fin du mois. Il y a des discussions chaque matin. Et je fais le tour de tout le monde pour voir ce qui se passe. Et moi-même, personnellement, il y a des départements dans lesquels, s'il y a des gens qui manquent, je fais le journal. Si les gens manquent ou s'il y a des difficultés, on passe me voir. Je ne te cacherai, le premier concours des œuvres en langue nationale au Niger, j'avais eu le premier prix à travers un de mes livres. J'ai écrit beaucoup de livres dans les langues locales. Donc, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup. Et vraiment, je crée les conditions, et la Fondation crée aussi les conditions qui nous donnent les moyens qu'il faut pour pouvoir faire notre travail. Parce que quand vous voyez des difficultés, quand vous voyez des nervosités, quand vous voyez peut-être des rébellions de X ou Y, c'est que des fois, tu es bloqué dans ceci ou dans cela. Tu veux appeler en Afghanistan, en Turkménistan, au Tadjikistan, les téléphones sont là. Tu veux te déplacer, les moyens sont là. Donc, nous essayons toujours de mettre les gens dans les conditions pour parler le même langage. On a une réunion de rédaction la plus démocratique au monde. Il n'y a pas de X et chef, Y et petit. C'est la discussion, c'est la recherche des angles, c'est la recherche des sujets, les sujets qui sont proches de nous, mais tout en respectant notre ligne éditoriale.
Le Niger est un grand pays. Votre slogan, c'est « Au rythme du Niger ». Parlons de la diffusion de Studio Kalangou. Donc, Studio Kalangou, ce n'est pas une radio à proprement parler. C'est un studio qui compte sur des dizaines de radios partenaires avec l'idée de couvrir la quasi-totalité du territoire nigérien.
Oui, c'est vrai, c'est une réalité. Nous sommes aujourd'hui, on a commencé petit, mais aujourd'hui, on voit très loin, vise très loin, des 10 à 20, à 30, à 40, aujourd'hui nous sommes à 52 radios. 52 radios officiellement qui ont signé avec nous. Mais ce qu'il ne faut pas oublier, il y a plus d'une soixantaine de radios au Niger qui diffusent notre programme. C'est un programme alléchant, c'est un programme qui est très bien ficelé, c'est un programme qui comprend le souci des Nigériens, c'est un programme proche de la population. Il y a des radios, même les radios partenaires, au lieu de diffuser une seule fois, diffusent trois fois dans la journée. Les heures que nous notons sont là, la nuit, le lendemain, il y a des autorités nommées au Niger qui disent aux radios qui sont dans leur localité, si tu n'as pas Kalangou, il faut chercher Kalangou.
Et vous ne faites pas que des journaux d'information, vous faites aussi des magazines.
Mais c'est ça aussi, cette chance. Les magazines aujourd'hui, dans un pays en développement comme le Niger, si vous ne parlez pas de la situation de la femme, si vous ne parlez pas des jeunes, si vous ne parlez pas des difficultés que rencontrent les gens, mais tu ne fais rien. Et dans nos magazines, nous donnons la parole à la population. Nous donnons la parole aux acteurs même pour dire à la face du monde, voilà nos difficultés, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire. Nous touchons aussi des sujets que les autres ne touchent pas. Dans un pays comme le Niger, un pays musulman, parler de la répudiation, parler des divorces, c'est très compliqué. Nous sommes arrivés à démystifier tout ça. Nous avons des thèmes qui sont... Par exemple, notre organisation, chaque lundi, c'est des questions de justice. Et qui parle de justice, c'est des difficultés. Chaque mardi, c'est les questions des femmes. Le jeudi, c'est l'environnement. Le vendredi, c'est l'agriculture. Et le week-end, c'est pour les jeunes. Donc, c'est pour te dire qu'à part les 52 radios, il y a à peu près une soixantaine ou sinon plus qui diffusent notre programme parce que tout simplement, on a dit, c'est libre accès, vous pouvez prendre. Mais les autres, il y a des clauses qui nous lient. Ça, c'est un autre part aussi. Nous travaillons avec une maison qui s'appelle Viamo, qui est une institution qui est placée dans beaucoup de pays africains, qui, à travers cette organisation, tu peux capter Kalangou 325 si tu as un numéro RTL, quel que soit le coin du Niger, qu'il y ait radio ou pas. Mais à tout ça s'ajoute cette télévision. C'est cette télévision.
Vous développez aussi les images. Vous ne faites plus que du son. Oui. Les images sont importantes en 2022.
Les images sont très, très, très importantes parce que, tout simplement, nous avons compris pour toucher beaucoup de Nigériens. Il y a ceux qui s'intéressent plus à la télévision. Il y a ceux dont c'est la radio. Il y a ceux, les journaux. Mais ce qui est sûr, la radio et la télévision dominent. Donc, depuis un moment, nous diffusons aussi ces émissions-là, notamment nos forums sur les télévisions. Cette télévision, 6 à Niamey, et une à l'intérieur du pays, c'est la télévision Gaskia de Zender. À part quelques informations que nous diffusons avec eux, nous avons surtout nos forums, nos programmes, nos débats que nous diffusons à travers ces médias-là et qui sont tellement aimés par les gens. Chaque fois, les gens nous appellent, mais on a suivi tel débat, est-ce qu'on peut nous mettre ça sur une clé USB? Est-ce que c'est permis? J'ai dit oui, mais à condition qu'on ne change pas le contenu. Parce qu'il y a ceux qui veulent venir prendre et partir faire autre chose avec. Ça, on n'est pas d'accord.
Amis de la la Fada, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue dans cette émission Jeune du Studio Kalangou que vous écoutez ce dimanche à travers nos 52 radios partenaires partout au Niger.
La dernière fois qu'on a parlé de Studio Kalangou dans l'atelier des médias de RFI, c'était en avril 2019 pour mettre en avant l'expérimentation de cette rédaction dans la diffusion de ses contenus via WhatsApp. Cette expérimentation a connu un coup d'arrêt en décembre 2019 quand Facebook, propriétaire de WhatsApp, a décidé de modifier les conditions d'utilisation de l'application de messagerie, restreignant la possibilité pour les médias de diffuser à des milliers d'utilisateurs. Alassane Abdou Mahaman, rédacteur en chef de Studio Kalangou.
Depuis longtemps, depuis très longtemps, notre lutte c'est de toucher, et ça continue encore, tous les Nigériens et même ceux qui sont à l'extérieur. Et pour toucher ceux qui sont à l'extérieur, obligatoirement nous sommes obligés de passer par les nouvelles technologies de l'information et de la communication, dont, comment on appelle ça, par exemple, le WhatsApp. Mais depuis un moment, WhatsApp a amené quelques systèmes, et ces systèmes-là, vraiment, ne peuvent pas nous permettre de bien envoyer ce que nous voulons. Mais n'empêche, nous restons en contact avec nos auditeurs, parce que c'est ce que cherche la Fondation Hirondelle, être tout près, toujours à côté de nos auditeurs. Il y a ceux qui nous envoient des questions à travers WhatsApp.
C'est ça, les notes vocales WhatsApp ont un rôle fondamental pour justement...
Un rôle fondamental parce que tout simplement, nous avons tout un département suivi qualité. Ce département travaille aussi avec ces nouvelles technologies pour nous dire, voilà ce qui marche, voilà ce qui ne marche pas, voilà ce que les gens ont aimé, voilà ce que les gens n'ont pas aimé. Donc, nous travaillons beaucoup avec ces outils-là, malgré les quelques blocages, mais les auditeurs continuent d'envoyer des questions, les auditeurs continuent de poser des questions. Nous aussi, de temps en temps, on discute avec eux pour savoir exactement qu'est-ce qui se passe. Nos correspondants, nos radiopartenaires, on discute beaucoup avec eux sur ces téléphones-là, sur WhatsApp, pour savoir exactement ce qui se passe et qu'est-ce qu'il y a lieu de faire pour améliorer encore plus.
Essayons de penser aussi aux populations nomades pour vos productions en langue tamashek, par exemple, qui s'adressent eh bien, à des populations qui sont dans des zones où il n'y a pas de connexion et qui se déplacent et qui après ont de temps en temps de la connexion. Justement, le fait de travailler en note vocale WhatsApp et qu'ils puissent avoir des informations ponctuellement, ça aussi c'est fondamental.
C'est vraiment fondamental. C'est-à-dire que si on peut faire plus, nous allons le faire. Mais les décisions de WhatsApp sont des décisions auxquelles la Fondation Hirondelle ou Kalangou est trop MP pour dire que non, on va surpasser ça. Peut-être que nous allons continuer à creuser encore plus pour voir comment toucher plus ces gens-là. Et là, l'autre facilité, c'est que même les éditions, nous pouvons les envoyer par WhatsApp. Beaucoup de gens ont la chance d'avoir ces éditions dans les différentes langues, hein, après réalisation. Nos techniciens sont là, un grand département qui envoie ces éditions via WhatsApp pour permettre aux jeunes d'écouter ce qui se passe.
Un des slogans de la Fondation Hirondelle, c'était « La propagande tue, l'information apaise ». Au niveau du Niger, justement, qu'est-ce qu'il y a actuellement comme type de fake news ? Et pensez-vous être suffisamment armé, vous, pour y répondre et pour essayer de les éteindre dans l'œuf ?
Je ne sais pas si tu as participé à notre panel. On a parlé un peu de cette question de désinformation.
C'était un focus sur le Niger, ici, aux Assises du Journalisme.
Oui, ce n'est pas aussi facile que ça. Il n'y a pas un média au monde qui va dire que non, nous, on va mettre fin à la désinformation. Tant que l'Internet existe, tant que les Android existent, tu ne peux pas mettre fin à la désinformation. Mais toujours est-il que, au niveau de la Fondation Hirondelle, principalement à Kalangou, je vous dis, le premier travail, c'est de mettre en avant l'éthique et la déontologie. Tout journaliste qui respecte l'éthique et la déontologie ne tombe pas facilement dans ces problèmes-là. Deuxième chose, la propagande n'a pas sa place chez nous. Je vous dis, il n'y a pas une autorité ou une institution étatique qui ne veut pas travailler avec nous. Si c'est de l'information, ça nous intéresse. Mais venir suivre les autorités pour raconter des choses, ce n'est pas Kalangou. C'est pour te dire que l'information, on l'a et on a plusieurs voies et méthode pour savoir exactement est-ce que c'est une réalité ou pas. Est-ce que c'est vrai ou c'est pas vrai. On ne se lève pas comme ça pour diffuser n'importe quoi. Le sensationnel, ça ne nous intéresse pas. Donc voilà pourquoi je dis, nous, on ne va pas dire qu'on a les armes qu'il faut pour combattre ça. Mais quand même, à travers notre stratégie, à travers nos règles, nous continuons aussi jusque-là à ne pas avoir de problème. Parce que si nous sommes un média de diffusion, de rumeurs, de n'importe quoi, Le Conseil supérieur de la communication est là. C'est une institution qui surveille tout ce qui se passe au niveau des médias. Ils vont nous écrire rapidement. Ils vont nous envoyer des sanctions. Mais c'est toujours des félicitations pour le travail que nous sommes en train de faire. Donc, je ne dirais pas qu'on peut mettre fin. Parce que nous-mêmes, entre nous, lors de nos réunions de rédaction, c'est des discussions dures entre nous. Quand quelqu'un amène des choses, on te dit, mais tiens, où sont tes sources? C'est la première question. Qui t'a dit ça? Tu as pris ça où? Et c'est quoi les informations? Quelqu'un te balance quelque chose et tu penses que c'est la réalité. Donc, tu amènes ça à la réunion, on discute, on fouille, on creuse. Finalement, on te dit, c'est pas vrai, c'est faux.
De plus en plus d'efforts sont faits dans la sous-région justement pour la formation des journalistes. Vous aussi, vous essayez de faire le maximum. Est-ce que c'est facile de trouver des bons profils de journalistes actuellement au Niger?
Vous savez, le journalisme ne paye pas son nom. Donc, tant que ça ne paye pas son nom, la tentation est facile. La tentation est facile, donc être un bon journaliste n'est pas du tout facile au Niger. Mais aujourd'hui, pourquoi? Il y a beaucoup de gens qui se posent des questions. Pourquoi tout le monde est chez vous? Chacun veut venir à Kalangou parce que Kalangou tente de mettre les gens dans les conditions, le minimum quand même. Nous sommes en train de le faire.
Pour travailler sereinement.
Pour travailler sereinement. Quand il sait qu'à la fin du mois, on va me payer. Quand il sait que j'ai les moyens qu'il faut pour faire mes activités. Je pense que pour un début, ça va. La formation, on ne cesse de le faire. Je suis venu de l'intérieur du pays, 900 km de Niamey, à Zender. Je passais juste 3 jours à Niamey avant de venir ici. Et j'étais parti former 28 journalistes correspondants de Kalangou. Et ça, nous sommes en train de le faire depuis des années, afin de permettre à nos collègues, si tu veux avoir de la bonne information avec un journaliste de l'intérieur du pays, ou bien quel que soit le journaliste, c'est de renforcer ses capacités afin de connaître ne serait-ce que les fondamentaux en journalisme.
Il faut aller le voir et transmettre.
Il faut aller le voir et transmettre. Voir dans quelles conditions il travaille. Voilà pourquoi nous avons délocalisé ces formations-là. Avant, c'est toujours à Niamey. Mais à Niamey, quelqu'un qui a passé 8 ans sans venir à Niamey, est-ce qu'il va suivre très bien ta formation? La première des choses, mes amis, ma famille, mes proches, ils sont dans quel quartier? Le marché. Donc nous nous sommes dit, il faut être sur place avec eux, voir dans quelles conditions ils travaillent, travailler avec eux et attirer leur attention sur l'importance, sur leur rôle d'abord dans la société, la place qu'ils occupent. Parce que même demain, quand on est journaliste au Niger et on fait très bien son travail, la population a toujours du respect pour toi.
Est-ce que l'objectif ne serait pas aussi que demain, Studio Kalangou puisse prendre sa liberté et ne dépendre plus de la Fondation Hirondelle, ou au contraire qu'il y ait des médias qui se développent au Niger et qui puissent voler de leurs propres ailes?
C'est surtout la deuxième question qui existe déjà. Il y a un média qui nous a dit clairement, je vous remercie pour tout ce que vous avez fait pour moi et nous, on pense que maintenant, nous avons les capacités pour bien faire le travail. La volonté de Studio Kalangou, ce n'est pas de garder les gens, ce n'est pas de les cloisonner ou bien d'avoir des... Parce que même dans le partenariat, qu'est-ce que j'allais dire? C'est pas compliqué chez nous. On n'est pas là pour vous empêcher de faire ceci ou de faire cela. C'est un partenariat pour diffuser ce que nous sommes en train de faire. Et nous cherchons des informations, les correspondants sont dans ton média, ces correspondants sont bien payés, la radio aussi. Et renforcer, payer avec plus du matériel. Donc, notre partenariat n'est pas compliqué. Et on ne te dit pas aussi de ne pas avoir des partenaires avec une autre institution. Par exemple, il y a des endroits où il y a RFI, il y a Kalangou. Il y a des endroits où il y a Deutsche Welle, il y a Kalangou. Il y a des endroits où il y a BBC ou VOA. Donc, on n'empêche à personne.
Qu'il y ait une offre de qualité la plus grande possible.
Voilà. Donc, voilà pourquoi je vous dis que notre vœu, quand on est en partenariat avec un média, et qu'un jour ce média nous dit... Merci Kalangou. Pensez à d'autres personnes. Nous, nous pouvons quand même voler de nos propres ailes. Et ça s'est passé une fois. Et nous pensons que d'ici quelques années, d'autres vont le faire également. Parce que le renforcement des capacités que nous sommes en train de faire, c'est pour permettre à ces acteurs-là d'être très proches de la population, de comprendre ce qu'est une information et de donner de l'information à la population et non de la communication, parce qu'on fait trop d'amalgame entre les deux, et de comprendre leur rôle d'abord dans la société aussi. Et l'importance de ces médias à côté. Donc ça, c'est ce que Kalangou est en train de vouloir faire. Et nous sommes en train de le faire. Et nous pensons qu'en 2023, 10 ou 15 radios vont venir nous dire « Merci Kalangou pour tout ce que vous avez fait pour nous. Nous pouvons avancer très bien sans vous et penser à d'autres médias nigériens. »
Eh bien, c'est ce qu'on peut vous souhaiter. Merci beaucoup Alassane Abdou Mahaman.
Merci.
Je rappelle que vous êtes rédacteur en chef de Studio Kalangou, basé à Niamey, au Niger. Et je vous dis à bientôt dans l'atelier des médias.
Merci beaucoup. Merci.
Je salue ceux qui nous écoutent depuis Niamey sur le 96.2 FM ou alors à Agadez, Diffa, Maradi, Tawa ou Zinder où RFI dispose aussi d'émetteurs FM. On terminera la semaine prochaine cette série d'entretiens enregistrés à Tunis aux deuxièmes assises internationales du journalisme par un échange avec le journaliste d'investigation béninois Ignace Sossou.
RFI.
Comme chaque semaine, on termine avec Mondoblog Audio qui fait entendre les blogueuses et blogueurs francophones de RFI.
Bonjour, moi c'est Boukari Ouedraogo, j'habite à Ouagadougou au Burkina Faso et mon blog c'est lemessagerdafrique.mondoblog.org. Dans mon billet audio, je vais vous parler de la cérémonie de funérailles organisée pour ma grand-mère chérie, Yaba. La personne la plus importante de ma vie, ma grand-mère Yaba, est morte. J'ai quitté Ouagadougou sur le champ pour me rendre à Gassongo, son village natal dans le département de Tikari. Lorsque je suis arrivé, il y avait déjà beaucoup de monde. L'ambiance était festive. Habituellement vide, la cour de Yaba ne pouvait accueillir tous ceux qui se présentaient pour honorer sa dépouille. Une troupe de chanteuses tapait en rythme sur des calebasses, assises sur des coussins et remplissait l'air de chants. C'était la fête. Pourtant, Yaba est morte. Mais ce départ devait être une dernière fête. C'est la coutume. On accompagne la personne âgée qui s'en va pour son voyage vers l'autre monde. L'ambiance était conviviale. On m'invita à la voir. Son corps était exposé. Moi, je n'avais jamais vu un mort. Elle était couchée sur une natte, la tête rasée. Elle était belle. Elle semblait dormir. Plus la nuit avançait, plus la cour devenait petite. Les personnes arrivaient d'un peu partout. Certaines étaient venues de loin. Elles avaient fait la route depuis le matin. La musique redoublait d'intensité. Les chanteuses vantaient les qualités humaines de ma grand-mère, gardienne des traditions et modèle d'intégrité. Les plateaux de riz circulaient de main en main et se posèrent autour des groupes. Un vieil homme m'interpella pour me parler d'un bon souvenir de Yaba. Les gens chantaient, dansait, se taquinait. Ainsi, la dépouille de ma grand-mère ne demeurait pas seule. Elle était veillée et célébrée. Les chants de louanges durèrent jusqu'au soleil du petit matin. L'enterrement était prévu un peu plus tard dans la matinée. Plus l'heure approchait, plus la foule grossissait. Une heure avant la cérémonie, le cercueil de Yaba fut exposé sous un grand arbre. De nombreux villageois l'entourèrent. Après les incantations, on demanda à des jeunes de transporter le cercueil jusqu'au cimetière. Ils se bousculèrent pour le faire. Chacun voulait pouvoir dire qu'il avait porté le cercueil de ma grand-mère. Le cimetière n'était pas loin, mais cela prit du temps. Tous les 50 mètres, on s'arrêtait, on chantait, on dansait et on lançait des yoyos. Les jeunes qui portaient le cercueil se balançaient au rythme du tam-tam. La foule dansait sous une forte canicule. C'était une fête. Les larmes du deuil sont réservées pour quand on est seul à la maison. Koumaye la main, Koumaye la main, Koumaye la main, Tirayoro manabigaye, Koumaye la main, Koumaye la main, Koumaye la main, Tirayoro manabigaye. Le temps de la mise en terre était venu. La tombe de Yaba avait été creusée la veille. Le cercueil fut minutieusement placé et on le recouvrit de terre. C'était la fin. Je ne verrai plus Yaba. Son âme avait rejoint celle de ses ancêtres. La troupe de danse du village continua de danser toute la nuit suivante. Nous bûmes du café, de la liqueur et du doulou. Koumaye la main, Koumaye la main, Koumaye la main, ya. Tirayoro manabigaye, Koumaye la main, Koumaye la main, Koumaye la main, Tirayoro manabigaye.
Mondoblog.org.
C'est la fin de cette émission réalisée par Simon De Creuse. Mondoblog était piloté cette semaine par Camille Deloche. Si vous aimez l'Atelier des médias, je vous rappelle que vous pouvez l'écouter en podcast chaque samedi avant même qu'il soit diffusé sur RFI. Pour ne rater aucun épisode, abonnez-vous sur Podcast Addict, Spotify, Apple Podcast ou encore l'appli Radio France. Mettez des étoiles à notre podcast sur toutes les plateformes où vous le pouvez et commentez nos émissions pour que ce programme ait davantage d'exposition. Pour me contacter, un message via Twitter ou un mail à l'adresse atelier@rfi.fr. Je m'appelle Steven Jambeau et je vous retrouverai avec plaisir la semaine prochaine pour un nouveau numéro de l'Atelier des médias.